Troisième chapitre, Brest. Nous sommes arrivés à Brest par la route impériale de Paris. On traverse les nouveaux quartiers bâtis par la trop fameuse Société des Ports de Brest, une grande place dessinée en trapèze par les arbres plantés sur les glacis des remparts. C'est la place de la liberté. Et, après avoir franchi au pas une double porte et un double fossé, on débouche dans des rues étroites et rapides, quelques-unes qui ne sont que des rampes ou des escaliers, et qui convergent tout au port. Si Brest n'était qu'une ville, elle serait petite, étroite et étranglée, un vrai trou. Même aspect lorsqu'on arrive du côté opposé, par la route du Conquet. Mais les rues sont plus escarpées et les maisons ont un air misérable. Brest, vu de la rade, n'a pas meilleure façon. C'est un entonnoir au pied de deux forts. L'embarcadère du chemin de fer donne sur le cours d'Ajau, sur la rade, sur les 10 ou 12 vaisseaux qui sont à l'ancre, sur 200 barques de pêcheurs, aux voiles rouges et blanches, tout près sur le port de commerce, au loin sur les côtes de Plougastel et de Crozon, sur les cimes de Ménécom, au fond à droite sur les trois goulets qui ouvrent accès à l'océan. Le spectacle est admirable, mais la ville de Brest n'y est pour rien. Les beautés de Brest, le port et l'arsenal, sont des beautés cachées, c'est leur mérite. Encore faut-il, même arrivé dans Brest, les aller chercher. Quelques chalands amarrés, deux avisos désarmés, 4 ou 5 barques donnent au premier bassin, étroit et qui semble fermé au prochain détour, les allures mesquines du plus humble des ports de commerce. Le pont impérial change tout de suite les premières impressions. Il s'élève à 60 pieds au-dessus de la mer et sur une portée de près de 400 pieds, partagée en deux volets de fonte dont la légèreté défie celle du pont d'Arcole à Paris. À chaque extrémité, des culées énormes bâties en granit supportent des centres de rotation. Elles font communiquer la rue de Siam d'un côté et l'une des rues de recouvrance de l'autre avec les quais par un escalier de 116 marches divisé en 4 étages. À chaque étage, des arches de granit soutiennent l'énorme contrepoids à l'aide duquel 4 hommes peuvent ouvrir ou fermer le pont, c'est-à-dire un poids de 750 kg pour chaque volet. L'opération se fait en un quart d'heure. La hauteur de cette arche unique, la hardiesse et l'étendue de sa projection, sa légèreté, l'imposante et élégante masse de ses culées, de ses arcades et de ses escaliers, la foule qui passe à son ombre sur les quais ou sur l'eau, tel est le premier et grandiose spectacle qu'offre le port. Après avoir admiré une pareille œuvre comme elle le mérite, j'ai donné à peine un regard aux ruines de la tour de la Motte Tanguy, située à l'une des extrémités du pont. Ne l'a-t-on pas déguisée sous un accoutrement de fantaisie? Comment reconnaître ces vieux murs dans leur tenue de marionnette? Du haut de ce pont, on aperçoit les magasins de la garniture, l'ancien bagne, l'hôpital de la marine, qui s'étagent au-dessus les uns des autres, et dont l'architecture, fort simple d'ailleurs, rappelle les graves et longues lignes de l'hôtel des Invalides. Nous descendons et gagnons l'arsenal, auquel on accède par un étroit passage dont une paroi de schiste rose, coupée à pic, forme l'un des côtés. Nous traversons sur un pont de bois le port, encombré de frégates, de vaisseaux, de corvettes en armement, et nous voici en face de la Cayenne, immense caserne, juchée sur le roc, et dont je renonce à compter les fenêtres. Nous suivons à gauche une ligne de canons qui se charge par la culasse et dont les officiers d'artillerie essaient le jeu. Plus loin, des amas de boulets ronds qu'on va jeter à la fonte comme passés de mode et d'usage. À côté, les boulets coniques ou cylindriques, longs de 60 à 70 cm, larges de 15 à 20 et destinés à défoncer les cuirasses. Nous visitons la salle d'armes. Je ne la comparerai pas à celle de Vincennes, qui a une supériorité artistique de disposition hors de conteste. Fusils et mousquetons d'anciens et de nouveaux modèles, sabres et poignards d'abordage, remplacés aujourd'hui par le revolver, la terrible hache si commode à la main, des pierriers en cuivre. Au centre de cette longue salle, il y a une sorte de pavillon où l'on voit le buste de l'empereur, l'aigle à ses côtés. À droite et à gauche, des palmiers formés d'assortiments de fusils ou de pistolets. Nous remarquons parmi les pièces curieuses de longs fusils de siège chinois ou russes, des armes mexicaines et espagnoles, une couleuvrine de 1,50 m datant de François Ier et se chargeant déjà par la culasse, enfin un sabre de 70 cm environ, large de 6, qui a tranché la tête de Gordon Warhouse, condamné à mort comme espion par un conseil de guerre et exécuté le 1er juin 1769. Auprès d'une cale où l'on blinde une vieille frégate dont le nom m'échappe, à travers des débris de boulets, de cuirasses, d'ancres, de cabestans et de câbles, nous arrivons aux ateliers des forges. C'est la machine à vapeur qui met en mouvement ses tours, ses tarières, ses lourds marteaux. Les plus épaisses plaques de fer sont percées, aplaties, courbées, pliées, forées sont le plus léger effort de l'homme. Une longue et énorme pièce sort du feu, ardente et rouge. Le marteau tombe, la flamme éclate et jaillit. On la tourne, on la retourne. Le marteau tombe toujours, jetant au loin les étincelles et les fragments de fer. Quel marteau et quel bras ne faudrait-il pas à l'homme privé du secours de la vapeur? La force qu'elle procure et le temps qu'elle épargne confondent l'imagination. Nous gravissons à gauche une rampe qui nous conduit, après une longue et pénible montée, aux ateliers de fonderie. Je ne sais si le bâtiment qui les renferme n'est pas aussi extraordinaire que les fonderies elles-mêmes. C'est une muraille en granit, fondée sur le roc, et qui, se renversant en arrière comme un talus, présente une masse de 50 ou 60 pieds de haut. Ainsi nous marchons d'étonnements en étonnements. Effort de la nature, effort de l'homme, voilà Brest. Toulon à l'étendue joint la grâce. Brest conquiert chaque jour l'étendue, mais n'aura jamais que la force. À la porte de la fonderie gisait, presque abandonné, un canon de bronze datant de 1746, sous Louis le Bien-Aimé. Il portait l'écusson de France, des ciselures, des moulures, une inscription ou une légende, tous accessoires réputés inutiles auxquels a renoncé la balistique moderne. À la sortie, nous nous sommes trouvés sur la culée qui porte la machine à mater. Avec le pont tournant, c'est ce qui m'a semblé le plus extraordinaire. Voir du quai cet engin suspendu sur la mer, à 110 ou 120 pieds de haut, avec ses lourds crochets qui se dessinent sur le ciel, n'est pas moins effrayant que de le voir de près, sur la plateforme, presque suspendu soi-même sur l'abîme qui vous donne le vertige. Nous descendons par un escalier de 126 marches et nous aboutissons sur le quai, près de nouvelles cales que l'on creuse dans le roc à l'aide de la pioche et de la mine. Lorsque, dans la Nord-Hollande, on parcourt la digue du Helder, on ne se rend pas compte, maintenant que le travail est terminé, des efforts gigantesques qui ont été nécessaires pour l'accomplir. C'est à 200 pieds de profondeur, dans une mer toujours agitée, qu'il a fallu, dit-on, jeter des blocs de basalte que les navires hollandais rapportaient de la Norvège. Où sont-ils, ces blocs? Qui les voit? On marche sur une digue solide que la mer respecte. Il semble qu'elle ait toujours existé. De même à Marseille. Qui croirait avoir ces admirables docks, d'une architecture si hardie et si grandiose, qu'ils ont été établis sur la mer et que des masses énormes de rochers artificiels en ont composé le fond et la base? À Brest même, ici près, en voyant le port de commerce et les quais qui la voisinent, on oublie facilement que les flots de la Rade venaient déferler sur le sable ou le granit, comme dans les baies voisines de Saint-Marc ou de Moulin Blanc. Pour le port militaire, l'oubli n'est pas possible. Les parois de granit et de schiste sont là, bordant les quais de chaque côté. Le travail d'autrefois se continue tous les jours, soit pour élargir le port, soit pour le rendre plus profond, soit pour y creuser de nouvelles formes. Les anciennes difficultés restent toujours présentes et l'ingénieur moderne ne peut être fier de ses ressources qu'après avoir rendu justice aux efforts et au succès de ses ancêtres. Il faut terminer cette visite. Voici l'Hercule, qui sert de pénitencier pour les disciplinaires. Ils sont employés aux plus pénibles et aux plus grossiers travaux du port. Voici le Duquesne, le Jean Bart, ces vieilles gloires de notre marine. Voici des corvettes qu'on blinde et auxquelles on adapte l'éperon. Elles sont doubles de longueur des anciennes. Nous montons à la corderie par 76 marches. Elle mesure 400 mètres. Je la crois plus longue que celle de Toulon, mais elle est un peu basse de plafond et étouffée. Nous visitons la scierie, reléguée dans une anse. Nous passons devant ces immenses magasins de la garniture, de l'approvisionnement, etc., que nous avions aperçus du haut du pont impérial. En outre de son port militaire, qui est au-dessus de tout éloge, Brest a voulu avoir un port de commerce. Il a été construit au pied du cours d'Ajau, en pleine rade. Il mesure une immense surface, protégée par un môle recourbé à ses deux extrémités et par deux jetées avec deux issues, l'une à l'est et l'autre à l'ouest. Il communique avec le chemin de fer de l'ouest par un tronçon spécial qui aboutit au quai et qui va rejoindre la voie principale au-delà du Moulin Blanc, à 3 kilomètres environ. On cherche un peu les navires dans cette vaste enceinte. On y voit le bateau à vapeur de Châteaulin quand il est à quai. Quelques chasses marées, et c'est à peu près tout. Le bruit court que l'État a l'intention d'y installer sa marine à vapeur, qu'il a dû reléguer dans la rivière de Châteaulin et de renvoyer plus loin le port de commerce. La véritable question est de savoir si Brest, au point de vue commercial, a des chances d'avenir. J'ai entendu exprimer des avis fort opposés par des personnes diversement compétentes. Les uns disent « Brest est au bout de la France ». Il n'offre que des débouchés lents et difficiles, même par le chemin de fer. Tout au plus serait-il favorable à l'importation. Mais comment exporter d'un pays qui n'entend rien au commerce, qui n'a pas d'industrie et qui ne pourrait donner aux navires de fret de retour? D'autres espèrent que les chemins de fer ajouteront une seconde voie à celle qui existe déjà et qu'ils organiseront des trains plus nombreux et plus rapides. Ils font remarquer qu'après les longues navigations transatlantiques, les capitaines de navires, comme les passagers, hésitent à s'engager dans la Manche, bien plus pénible et plus difficile que l'océan. Brest est au bout de la France comme la première porte ouverte pour y entrer. 100 lieues d'avance sur le Havre, un bon port, des débouchés faciles pour le nord, le centre ou le midi. N'y a-t-il pas là de quoi tenter l'avenir ? Ce sont les commerçants qui tiennent pour la première prédiction et les marins pour la seconde. Nous ne savons qui aura raison des deux, des commerçants ou des marins. L'expérience décidera, et si le commerce doit visiter ces parages, il y viendra de soi avec le flair du succès.